France Inter.
Nous avons tous, je tiens à ce qu'on le sache bien, la même volonté, qui est celle de nous orienter vers un libre-échange qui est dans la nature des choses. La France, comme l'Union européenne, comme d'ailleurs le Mercosur, comme l'Amérique du Sud et la Caraïbe, nous sommes tous déterminés à progresser le plus vite possible dans cette voie.
Président Chirac à Rio de Janeiro, c'est le début des discussions sur un accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, le Mercosur. Nous sommes le 28 juin 99 et ça ne va pas aller le plus vite possible. Nous voilà 25 ans plus tard, le texte sera signé samedi prochain, le 17, au Paraguay. Ensuite, le Parlement européen devra le ratifier. C'est pas encore fait. L'accord abattra progressivement 90% des barrières douanières entre 700 millions de consommateurs. Le libre-échange, c'est dans la nature des choses, dit Jacques Chirac. Un quart de siècle plus tard, nous savons qu'en réalité, la mondialisation, elle fait des gagnants et des perdants. Alors oui, dans 15 ans, les voitures allemandes ne seront plus taxées à 35%, ni le vin français, ni nos fromages, mais que se passera-t-il pour les éleveurs bovins ? Certes, si on regarde l'accord avec le Canada, plus d'angoisse que de réalité. Mais pour le moment, les quotas, les clauses de sauvegarde, le renforcement des contrôles, les aides de la PAC, tout ça reste théorique. Et puis au fond, l'inquiétude des agriculteurs, elle tient à une question de fond, irrésolue. Comment définir notre souveraineté agricole ? Est-ce que ça veut dire produire davantage et exporter plus ? Ou est-ce que ça signifie produire plus vert et importer moins ? Quant à l'argument économique, il peut sembler fragile. Plus 0,05% sur le PIB de l'Union européenne à l'horizon 2040, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Bon, fragile, sauf qu'il reste deux arguments de poids. Un, il s'agit aussi d'accéder à des matériaux stratégiques, le lithium, le cuivre, et en ce moment avec la Chine, ça n'a pas de prix. Et puis deux, comme on le disait déjà en 99, se rapprocher du Sud, c'est contrebalancer l'influence des États-Unis, une des nations les plus protectionnistes de l'histoire. Ça n'a jamais été aussi vrai.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans votre magazine d'économie. Toute la bande vous souhaite une merveilleuse année 2026. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'écoute. Et nous, c'est la réalisatrice Céline Hilla, celui avec qui je prépare cette émission, Valentin Pérez. Anne-Cécile Perrin est attachée de production. Théo de Lobadère signe les mix. Et Nicolas Delmas est face à moi, derrière la vitre, à la console. L'invité de ce samedi 10 janvier, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. International, France, instabilité politique, budget. À quoi s'attendre en 2026 ? Interview vers 2040, 9h40. L'immobilier sortira-t-il de la crise cette année ? Zoom ce matin sur ceux qui ont misé sur le financement participatif. C'est la promesse de construction de logements et d'un bon retour sur investissement. Mais depuis deux ans, ce crowdfunding immobilier traverse une très mauvaise passe. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Madame vit au boulot, toujours là en 2026 pour nous guider dans les coulisses du monde du travail. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Vous répondez à notre auditeur Benoît qui s'inquiète au sujet du secret médical.
Oui, Benoît est convoqué à la médecine du travail à l'initiative de son employeur. Peut-il tout dire à ce praticien sans risquer de perdre son poste ? Je vais essayer de vous rassurer tout à l'heure.
Ah oui, rassurez-nous, on en a besoin en ce moment. On se retrouve juste avant 10h, Sandrine Foulon. Mais d'abord, l'actualité en débat. C'est avec Béatrice Mathieu du magazine L'Express. Hello Béatrice.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Christian Chavagneux du mensuel Alternatives économiques. Salut Christian.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Au milieu du brouillard et du chaos, après le Venezuela, les déclarations sur le Groenland, mettons la planète éco sur pause pour se demander si le président des États-Unis a une doctrine, c'est-à-dire une cohérence, des objectifs précis, un projet économique, et tout ça au bénéfice de qui ? Si vous êtes avec nous, eh ben on arrête l'écho. Tout ce qu'il faut savoir des Trumponomics, c'est maintenant.
On va diriger le pays jusqu'à ce qu'on puisse assurer une vraie transition, sûre et judicieuse.
Donald Trump, président des États-Unis.
Nos très grandes compagnies pétrolières, les plus grosses du monde entier, vont y aller, dépenser des milliards de dollars et commencer à gagner de l'argent.
Il est clair que la seule ressource,
Philippe Chalmin,
et le seul intérêt,
économiste,
que le Venezuela peut avoir pour les États-Unis,
président fondateur du cercle Cyclope,
ce sont quand même ses réserves de pétrole. Le Venezuela détient les plus importantes réserves de pétrole au monde, plus importantes que celles de l'Arabie Saoudite.
Et un mot de l'actualité économique et cette déclaration de Donald Trump qui annonce sur son réseau social que le Venezuela va remettre jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis.
Tout ça, ça fait de la bonne télé.
Patrice Geoffron, professeur d'économie, Université Paris-Dauphine.
Annoncer 30 à 50 millions de barils, c'est rien. 30 à 50 millions de barils, c'est la moitié de la production mondiale simplement en une journée. Et ça va représenter quelques milliards. C'est peut-être pas même le coût de l'ensemble de ce qui a été entrepris militairement jusqu'à maintenant.
Tous nos bons voeux pour l'année qui s'ouvre, une année qui sent le pétrole. Dès le début, on a été un petit peu sous le choc de ce qui s'est passé au Venezuela, que déjà cap sur le Groenland.
La Maison Blanche fait savoir que le président américain étudie activement un achat du territoire autonome.
Donc effectivement, il y a toute une série de ressources importantes au Groenland.
Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
L'Union européenne a relevé que 25 des 34 matériaux critiques nécessaires aux technologies et à la transition écologique sont présents au Groenland. Mais enfin, c'est sous souveraineté et ce sera aux Groenlandais de décider un petit peu de leur modèle de développement futur.
C'est quelque chose qui est en train d'être discuté par le président et ses équipes.
Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche.
Et je soulignerai que l'acquisition du Groenland par les États-Unis n'est pas du tout une idée nouvelle. Nos anciens présidents en parlent depuis le 19e siècle. Le président a été très transparent avec vous et avec le monde entier quand il dit que c'est dans l'intérêt supérieur des États-Unis.
Ouais, au sujet du Groenland, hein. Le deal, si on n'y arrive pas par la manière douce, ça sera la manière forte. Ça, c'était Donald Trump il y a quelques heures dans la soirée. Mais avant de parler du Groenland, parlons, Béatrice Mathieu, du Venezuela et du pétrole qui est au cœur quand même de cette mise sous tutelle du pays. Qu'est-ce que ça nous enseigne ?
Eh bien, ça nous enseigne effectivement une doctrine, c'est une partie de la doctrine de Donald Trump, ce qu'on appelle l'energy dominance, en fait. C'est, il a fait, en fait, de...
La
domination énergétique. Dans sa quête de puissance, hein, il y a une espèce de projet nietzschéen dans Trump. C'est-à-dire qu'il veut la puissance, il est obsédé par la puissance. Et l'énergie est une brique importante de puissance. Donc, évidemment, mettre la main sur les plus grandes réserves mondiales, ça a été dit, de pétrole, hein, 300 milliards de barils de réserves prouvées, dans sa tête, en fait, c'est très très important. Même si, il faut dire, il a réuni hier les principales majors américaines qui traînent un petit peu les pieds pour revenir au Venezuela, parce que, effectivement, les infrastructures sont en très mauvais état, que pour exploiter tout ce pétrole, il faut investir énormément d'argent et que tous les experts disent c'est des centaines de milliards de dollars et que le Venezuela ne retrouvera pas le niveau de production qu'il avait avant les sanctions, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans, avant au moins une décennie. Mais il faut voir que pourquoi il va au Venezuela, c'est que je pense qu'il y a une stratégie qui est brisée, je dirais, l'axe Venezuela, Iran, Russie, Chine. Dans sa volonté et son obsession de puissance, il y a contré la domination chinoise et la puissance chinoise. Or, on sait, et il le sait très bien, que le talon d'Achille de la Chine, c'est sa dépendance énergétique et sa dépendance au pétrole. La Chine, aujourd'hui, importe 70% de ses besoins en pétrole. La Chine importait beaucoup de pétrole du Venezuela, beaucoup de pétrole d'Iran, beaucoup de pétrole de Russie. Or, il faut voir que l'attaque sur le Venezuela fait suite à les sanctions qui ont été mises sur Lukoil et Rosneft, les deux compagnies pétrolières russes, ce qui va rendre l'approvisionnement de la Chine plus compliqué et plus coûteux, et que aujourd'hui les États-Unis soutiennent aussi ce qui se passe en Iran. On sait très bien que la Chine s'approvisionne.
Autre pays pétrolier.
Donc on voit bien que c'est derrière ça, c'est une il cherche aussi à fragiliser la Chine, tout dans son combat géostratégique et géoéconomique qu'il a contre Pékin.
Alors là, vous avez mis plein de choses sur la table. Je vais me tourner vers Christian pour qu'il nous complète la photo.
Je partage à 100% ce qu'a dit Béatrice sur le Venezuela. J'ajoute juste deux petites choses en plus. En fait, les réseaux financiers pétroliers sont aux mains de réseaux criminels. Et ça, il n'y a, pas eu
au Venezuela.
Au Venezuela, il n'y a pas eu de changement de régime. Ces réseaux, ils ne vont pas se laisser prendre l'argent du pétrole comme ça. Donc là, il y a une dimension d'économie politique criminelle à prendre en compte que les observateurs passent un petit peu à côté. Quand vous regardez les spécialistes du Venezuela, ils vous disent attention, allez chercher cet argent, ça ne va pas être si facile. Et la deuxième chose que je rajoute, c'est que oui, peut-être que la Chine va devoir payer son pétrole plus cher, parce que là, comme c'était du pétrole de contrebande, c'est vendu un peu moins cher. Mais franchement, quand vous avez un pays qui fait plus de 1000 milliards d'excédent commercial, aller chercher du pétrole plus cher, c'est pas ça qui va la déranger beaucoup, je pense.
Alors plus cher, sauf si on peut tout imaginer, même qu'il y ait des sanctions, des restrictions aux exportations vers la Chine.
C'est une autre étape, ça.
Ce que nous décrit Béatrice, c'est quand même les États-Unis, et on n'a pas encore dit que c'est le premier producteur mondial de pétrole, déjà, avec son pétrole de schiste. Et donc là, il est en train de mettre la main sur...
Sauf que les producteurs de pétrole de schiste sont venus se plaindre à Donald Trump, parce que si vraiment il y a du pétrole brut qui sort du Venezuela, ça va faire baisser le prix, et déjà qu'ils ne sont pas rentables, ils sont encore moins rentables.
Mais c'est une réponse à la Chine. La Chine, aujourd'hui, est le maître du jeu des énergies renouvelables à travers la puissance qu'il a sur le raffinage des métaux et des métaux critiques rares. Les États-Unis, aujourd'hui, sont redevenus les maîtres du jeu des énergies fossiles, pétrole et gaz. C'est une réponse. Et donc, c'était une sorte d'équilibre de la terreur, et on voit bien que la Chine, qui fait quand elle veut des restrictions sur les exportations en fait de métaux rares et de terres rares, eh bien Trump se dit que lui va pouvoir répondre à la Chine en faisant en étant le maître
son energy dominance sur sa domination énergétique fossile.
Et le Groenland, Christian ?
Moi, ça m'inquiète encore plus que le Venezuela, le Groenland, pourquoi ? Parce qu'il y a un narratif trumpien qui consiste à dire pourquoi il faudrait qu'on devienne les possesseurs du Groenland, soit par l'argent, soit par la force. Deux raisons. Parce qu'il y a des raisons de sécurité. Il y a des sous-marins et des bateaux chinois et russes qui passent par là. Franchement, il y a un accord de défense qui date de 1951 qui permet aux Américains de faire tout ce qu'ils veulent sur le territoire groenlandais. S'ils veulent multiplier par 10 leur base militaire, ils peuvent multiplier par 10 sans demander l'avis de personne. Donc, franchement, il n'y a pas besoin de mettre la main sur le pays pour les questions sécuritaires. Alors, bien sûr, deuxième narratif trumpien, il y a des métaux critiques.
L'économie.
Toujours l'energy dominance. On va aller chercher des métaux critiques. Alors, les réserves, il y en a, visiblement. Bon, c'est peut-être pas très facile, comme au Venezuela, de bâtir des infrastructures parce qu'on est sur la glace, donc il faut quand même des usines, des ports, des routes pour transporter tout ça. Mais les Groenlandais, depuis des dizaines d'années, disent aux multinationales du monde entier, notamment aux multinationales américaine, mais venez forer la glace tant que vous voulez, mais venez, nous on est ouverts. Et qui vient ? Pratiquement personne, parce que c'est super dur, c'est très très cher, comme au Venezuela. Et là où ça m'inquiète, c'est que si c'est pas vraiment pour des raisons de sécurité, si c'est pas vraiment pour des raisons de métaux critiques, parce que finalement c'est très dur à exploiter, qu'est-ce qui reste comme justification ? Et là, on retrouve une notion qui n'est pas du tout la doctrine Monroe dont on nous a rebattu les oreilles.
Alors, il faut dire ce que c'est.
Doctrine Monroe, c'est le président américain James Monroe, dans les années 1820, il dit l'Amérique aux Américains, mais quand il dit ça, il dit, vous, puissance coloniale européenne, ne venez plus sur le continent américain, c'est ma chasse gardée. C'est pas ça du tout.
C'est le territoire d'influence, hein, c'est
le
ça la doctrine
d'influence.
Monroe.
Le Western Hemisphere, comme on dit en anglais, hein, l'hémisphère occidental, enfin oui, et puis américain, c'est nous, quoi. Donc vous, les puissances coloniales européennes, ne venez pas. C'est pas ça que dit Trump au Groenland. On retrouve une autre idée du milieu du 19e siècle américain, moi, qui m'effraie, ce qu'on appelle la destinée manifeste, c'est-à-dire l'idée que la Providence, Dieu, a donné une supériorité morale aux Américains, qu'ils doivent s'étendre territorialement pour répandre le bien partout dans le monde. Et quand nos confrères du New York Times passent 4 heures avec Trump pour lui dire, mais votre volonté
c'était
de puissance,
c'était
jeudi, vendredi, ils leur disent, mais l'arrêt de votre volonté de puissance, c'est où ? Il dit, c'est juste mon sens moral. On est vraiment dans la moralité de la puissance et Trump, il est là. Et si c'est vraiment ça, quand vous rajoutez derrière, que vous regardez les tech, les milliardaires de la tech américaine qui disent, ah mais nous le Groenland, dis donc, on pourrait faire de l'immobilier, on pourrait mettre des data centers, peut-être qu'il y a aussi, les métaux critiques, ok, peut-être ça nous intéresse, mais il y a de l'énergie hydroélectrique. Peter Thiel, qui est le plus libertarien de tous ces milliardaires de la tech, dit, mais moi le Groenland, je le veux. Pourquoi ? Pour faire un territoire sans État, pour faire un territoire sans régulation, sans taxes. Donc vous avez ce mélange d'une clique de milliardaires de la tech avec Trump qui nous dit, bah voilà, en fait le Groenland, c'est pas du tout pour des raisons de sécurité ou pour des raisons économiques, c'est la destinée manifeste des États-Unis, et moi ça me fait très peur, parce qu'il n'y a plus de limite.
Béatrice Mathieu,
Donc là, on dépasse même l'économie, hein, avec la destinée manifeste. Mais quand même, si je vous ramène à ce qu'on cherche depuis le début, c'est est-ce qu'il y a une doctrine, comment est-ce qu'on qualifie la pensée trumpienne, comment est-ce qu'on peut la résumer pour terminer il nous reste 3 minutes. Allez-y, Béatrice.
Alors moi, j'ai essayé de trouver un acronyme, en fait. Comment on pouvait qualifier
en Il fait, nous manquait un acronyme en voilà. France.
C'est bon. Alors, vous connaissiez le « Yes, we can » de Obama, « can », pouvoir, en anglais, « oui, nous pouvons ». Eh bien, Trump a réinventé, on pourrait dire, ce « yes, we can », « can » étant un acronyme, du capitalisme autoritaire népotique d'État. Autoritaire, on le voit, et Christian en a très bien parlé. Népotique, parce que c'est un capitalisme de connivence, de copinage, en fait, pour à la fois sa clique, mais aussi ses propres intérêts, ceux de ses enfants dans les stablecoins et ses propres intérêts immobiliers avec ses Trump Power.
Les stablecoins sont des cryptos adossés au dollar.
Où il a énormément, en fait, allégé la réglementation pour que ce secteur se développe énormément. Et puis d'État, parce que, effectivement, le gouvernement américain, au contraire, Trump n'est pas du tout, c'est pas un néo-réganisme, c'est pas du tout un libéral, absolument
pas. Du tout,
il y a un interventionnisme de l'État dans la vie des affaires américaines qui est assez incroyable. Il y a des prises de participation très importantes cette année de l'État américain dans des entreprises. Il a tordu le bras à Intel, le géant des semi-conducteurs, pour prendre 10% du capital. Il a pris des participations dans plein d'entreprises de métaux rares. Il dit à Nvidia, d'accord, vous pouvez continuer
le fabricant de puces,
vous pouvez réexporter vers la Chine, mais 25% des profits que vous allez réaliser en Chine, eh bien, vous me les donnerez à moi, genre à moi, à l'État américain. Donc, c'est un capitalisme.
C'est pas un libéral.
Mais c'est pas du tout un libéral.
C'est pas du tout un libéral. Alors, comme Béatrice a son acronyme, moi j'ai le mien aussi.
Ah, je dirais
que la politique économique de Trump, elle est pas canne, elle est conne plutôt. Mais CO2NE, donc c'est un capitalisme oligarchique, nationaliste, népotique, exploiteur. Et je trouve que là, ça résume bien le tout. Alors je trouve que plus sérieusement, il y a un économiste il y a un an qui s'appelle Arnaud Orin qui a publié un bouquin qui s'appelle Le capitalisme de la finitude. Il vous dit, quand vous êtes libéral, c'est une croissance infinie des richesses pour tous les pays, toutes les entreprises, tous les individus. Non, dans le capitalisme de la finitude qui est celui de Trump, le monde est fini, les ressources sont finies, il faut se battre, et celui qui va prendre, il prendra aux autres, et les autres, ce sera tant pis pour eux. Ça, on le voit avec un recul des mécanismes de marché, c'est clair chez Trump. Une légitimation des grands monopoles privés, là c'est archi vrai chez Trump. Et les marchands, je trouve ça intéressant chez Arnaud Orin, Amazon, Walmart, Google, impose aux industriels ce qu'on va pouvoir vendre. Et ça, je trouve ce retournement de rapport de force est tout à fait vrai aux États-Unis aussi. Ça existe ailleurs, ça existe en Chine, ça existe un petit peu partout, ça a existé dans le temps aussi, c'est ce qu'on appelait le mercantilisme. Et je trouve que Trump est vraiment dans cette voie-là, mais avec une dimension. Il y a un papier qui fait beaucoup parler aux États-Unis en ce moment, qui définit Trump comme un néo-royaliste, et avec une clique oligarchique qui est autour de lui, et je pense que vraiment Trump fonctionne comme ça.
Il est publié où, votre papier ?
Il est publié, je sais pas trop, mais vous le trouverez en ligne, je donnerai les références.
Vous donnerez des références, on va essayer de mettre ça en ligne.
International Organization, pardon, c'est la revue.
Les Trumponomics en pleine lumière avec Christian Chavagneux et Béatrice Mathieu.
Real decreto ley para la ampliación de derechos
deindustrialisieron
el unemployment and lower job creation.
On continue de regarder l'économie comme elle tourne ailleurs sur la planète ce matin, direction l'Asie.
1月7号，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志中国籍从柬埔寨金边押解回国。
Les informations à la télévision d'État chinoise. Pékin a décidé de s'attaquer aux puissants hommes d'affaires qui contrôlent dans la région le business des cyber-arnaques, les arnaques en ligne. Et voici que vient d'arriver sur le sol chinois un de ces magnats menotté sous la cagoule retirée théâtralement sur le tarmac. On découvre Chen Jie, il vient d'être extradé par le Cambodge. Bonjour Juliette Buchez.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante de France Inter au Cambodge. Alors chez vous, Chen Je était un homme d'affaires particulièrement influent et bien connecté, une figure du capitalisme local.
Oui, naturalisé cambodgien, Chen Je détenait un titre honorifique équivalent à celui de Lord. Il était aussi conseiller de l'ancien Premier ministre Hun Sen, puis de son fils Hun Manet, actuel Premier ministre du Cambodge. Des banques, des projets immobiliers, des centres commerciaux, une fondation. Chen Je bâtit sa fortune grâce aux activités de son conglomérat Prince Group au Cambodge. En apparence, du moins, car les enquêtes journalistiques et judiciaires sur les dessous de son succès se multiplient. La façade vole définitivement en éclats en octobre dernier, quand le département américain de la justice annonce l'inculpation de Chen Je et une confiscation record d'avoirs en crypto-monnaie, pas loin de 15 milliards de dollars en bitcoin. Selon les enquêteurs, la fortune de Chen Je provient en fait d'un vaste réseau criminel qui conduit des arnaques en ligne. Un réseau alimenté et structuré par la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent.
Chen Je est en train de devenir ce visage international de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, mais Juliette, son réseau en fait n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Oui, ces entreprises cybercriminelles ont atteint une échelle industrielle en Asie du Sud-Est où l'on estime qu'elles génèrent près de 40 milliards de dollars par an. Les réseaux de cyberarnaques asiatiques sont connus pour abuser deux types de victimes. Celles visées par des arnaques sentimentales ou des investissements fictifs dans des crypto-monnaies d'un côté, de l'autre celles attirées par des promesses d'emploi trop beaux pour être vraies et contraintes ensuite de remplir leur quota d'arnaque parfois sous la torture. Il est néanmoins difficile d'estimer la proportion de personnes forcées et celle des volontaires attirées par une industrie criminelle en plein boom. Malgré la multiplication des interventions locales et internationales, elle continue de se structurer, de se diversifier, le tout en ayant recours à des outils de plus en plus complexes. Si les réseaux sont connus pour opérer depuis le Cambodge, la Birmanie ou le Laos, les opérateurs viennent aujourd'hui de tous les continents et les cibles aussi.
Juliette Buchez, avec nous de Phnom Penh. (Musique) 9h34 sur France Inter. Retour dans l'Hexagone. Dans moins de 10 minutes, le gouverneur de la Banque de France sera dans ce studio. Interview de François Villeroy de Gallo sur le nouvel ordre international, la recherche du budget et les taux, bien sûr. Ouvrons le dossier immobilier. 2026 sera-t-elle l'année de la sortie de crise pour le marché ? Il y a des signaux encourageants sur le nombre de ventes, par exemple. Mais vous le savez, depuis le Covid, le secteur a vécu de nombreuses secousses. Focus ce matin sur ces particuliers et ces professionnels qui ont misé sur le financement participatif. Il s'agit d'investir dans un projet de construction de logement via une plateforme numérique. Le modèle existe depuis une dizaine d'années en France. Mais depuis deux ans, ce crowdfunding immobilier est en crise, certains peuvent perdre toute leur mise. C'est le reportage d'Annelle Verzo. Elle nous emmène ce samedi à la rencontre de Michel. Il a co-créé un collectif de défense des investisseurs particuliers. Nous voici à Meudon, près de Paris. On frotte nos pieds sur le paillasson et on entre.
Bonjour. Enchantée.
Bonjour.
Je vais enlever mes chaussures parce que là, je vais mettre de la neige partout. Oh, bah, si, si.
Voilà, on se trouve chez vous, Michel. Je vois qu'il y a encore le sapin de Noël.
C'est bien décoré. Ouais.
On vient à peine de terminer la saison. Donc on va la garder le plus loin possible pour être positif.
Michel, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
J'ai été dans le monde de la télévision parce que j'ai été un des dirigeants d'Eurosport. Et ensuite, j'ai décidé d'être entrepreneur. Et j'ai fini par reprendre une école d'enseignement supérieur.
Vous avez commencé à faire du crowdfunding, à participer à ces opérations immobilières. Il y a combien de temps ?
Il y a 6 ans, donc vraiment au démarrage. J'avais trouvé l'idée très intéressante, puisqu'on pouvait être associé à un promoteur avec un taux d'intérêt intéressant sur 3 ans, 4 ans. Le temps qu'il commence à faire ses constructions et qu'il obtienne ses premières ventes. Et là, il vous rembourse le capital plus les intérêts. Et grosso modo, c'était du 5, 6, 7, 8% par an. Donc c'est intéressant d'un point de vue intérêt. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie risque. Parce que vous êtes à côté d'un promoteur que vous ne connaissez pas forcément. Et c'est là qu'interviennent toutes ces plateformes.
Les plateformes qui sont des intermédiaires, en quelque sorte, entre le promoteur immobilier et vous, les investisseurs.
C'est ça. Je suis monté jusqu'à 1 million d'euros. Je devais avoir une cinquantaine de dossiers. Alors, il y en a plein qui sont arrivés au bout sans problème. Mmh. En fait, tout s'est emballé avec Chorégraphe. Chorégraphe, c'est une plateforme. Ils se sont retrouvés avec 200 projets qui étaient pratiquement tous quand même en difficulté. Et donc, fin 2024, l'actionnaire, donc le propriétaire, décide d'arrêter. Chorégraphe n'existe plus. Alors, vous avez 200 projets, vous avez 3000 investisseurs, dont moi. Et franchement, vous avez de tout. Des infirmières, des aides-soignants, des retraités. Vous avez des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, hein, qui ont mis ce qu'ils avaient obtenu de leur héritage ou toutes leurs économies. Il y a une personne, je ne vais pas le citer, mais lui, il a mis 450 000 euros sur deux projets. Ils sont tous foireux.
Merci beaucoup.
Ben de rien.
Chorégraphe n'est pas la seule plateforme à avoir coulé. Depuis fin 2024, il y a eu aussi October, Wizid, Utip ou encore Wishare Bonds. Malgré les garanties, tous les prêteurs particuliers ne sont pas remboursés, ou alors avec de très longs retards. Pour expliquer ces défaillances, les promoteurs font valoir un contexte difficile dans lequel faire aboutir les projets s'avère une équation compliquée.
Le financement d'un promoteur immobilier, c'est un peu le nerf de la guerre.
Jérôme Noël est l'un d'entre eux. Dans les Côtes d'Armor, il a fini par mener à bien la construction d'un bâtiment de 24 logements, en partie en financement participatif. Mais il a dû ajuster ses plans.
Donc on a transformé en gros 1500 m² de bureaux en 24 logements plutôt haut de gamme. Pour vous donner une idée, on a pas mal de logements qui font plus de 100 m² et on a sur cette opération plus de 630 m² de terrasse et 450 m² de jardin. Voilà. Donc ça, c'est la vue de la façade arrière. Sur les étages supérieurs, on est donc sur une structure bois avec un bardage bois. Cette opération, je voulais absolument la faire. C'était mon premier programme dans ma ville natale de Saint-Brieuc. Et eh ben, il me manquait un peu de fonds propres. Le crowdfunding, au total, il doit être de l'ordre de 450 000 euros. Et sur la collecte en elle-même, ça a été très rapide. En une semaine, c'était bouclé. Ce projet, je l'ai initié en 2021. C'est la sortie du Covid. On est quand même rentré dans une phase de récession économique avec globalement une baisse du pouvoir d'achat d'un certain type d'acquéreurs. Donc ça a créé une diminution quand même des transactions. On assiste à une hausse du coût de la construction, une vraie inflation. Et il a fallu réajuster le coût de construction à la hausse. C'était loin d'être gagné puisque les marges ont quand même été réduites dans ce contexte, assez significativement quand même, de 15 à 20%. Voilà, on est dans une période très compliquée. Pour beaucoup de mes confrères, ça l'est. J'ai vu des opérations qui ne sont pas allées au bout, à défaut d'une commercialisation suffisante ou d'un bilan peut-être trop optimiste avec des coûts de construction sous-évalués au démarrage. Eh bien, il y a des projets qui se sont arrêtés, oui.
Ce ralentissement du secteur, les plateformes de crowdfunding immobilier le ressentent. Aujourd'hui, il en reste une vingtaine, de tailles diverses. Mais leur collecte de fonds se complique. Entre 2022 et 2024, elles ont été divisées par deux. Une évolution qu'observe Alexandre Toussaint, PDG et fondateur de la plateforme Baltis, lancée en 2016.
Oui, bonjour, c'est Anaël.
Oui, je vous ouvre, un deuxième étage.
Merci beaucoup, à tout de suite.
Je vais le rencontrer dans ses bureaux, dans le nord-ouest de Paris.
Alors effectivement, il y a eu l'âge d'or qui a duré 6-7 ans où les montants de collecte doublaient quasiment chaque année. On avait fait, je me rappelle, un projet de 2 millions d'euros en 7 minutes. Quand un projet dépassait les 5-6 minutes ou 10 minutes, tout le monde était inquiet. Mince, ça va pas, le projet n'est pas bon, il y a quelque chose qui cloche, quoi. On a eu un projet qui s'est clôturé en quelques secondes. On a eu un avis Google négatif en disant « j'ai pas eu le temps de souscrire, le projet est parti trop vite ». Aujourd'hui, si on lance un projet de 2 millions d'euros, ça sera plutôt en 7 jours, voire un peu plus, parce que les gens investissent des tickets plus petits. Et effectivement, depuis 2 ans, les montants de collecte baissent, qui est dû à plusieurs raisons. Le contexte immobilier, c'est-à-dire les taux qui sont plus élevés, les difficultés pour accéder au crédit, les prix qui ont baissé, donc c'est pas le moment de vendre, c'est plutôt le moment d'acheter. Donc on a beaucoup d'opérations qu'on a financées, nous, qui sont en retard. Donc en retard, c'est-à-dire que ça devait durer 12 mois, comme on affiche sur le site. Finalement, ça dure 13, 14, 15, 16, ça peut durer encore plus. Donc on est plutôt impatient que le marché immobilier se remette dans le bon sens pour que nous, plateforme aussi, on puisse décoincer, j'ai envie de dire, certains projets. On a quand même des prémices qui montrent que ça commence un peu à se déverrouiller chez les promoteurs, chez les banquiers commencent à reprêter, il y a des permis de construire qui sont déposés, donc on sent que les voyants commencent un petit peu à passer du rouge à l'orange, donc on n'est pas encore au vert, peut-être qu'en fin 26 on sera au vert, donc 27 on devrait voir une accélération. Moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans le creux de la vague, on a fait le plus dur, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle politique, géopolitique internationale dans les mois qui viennent encore ralentir le marché. Et on tape plutôt sur un redémarrage vraiment actif début 2028, dans 2 ans.
12 ans après la loi qu'il a régulée dans l'immobilier, comment le financement participatif peut-il rebondir?
Donc l'immobilier ne va pas bien, le crowdfunding immobilier ne va pas aller très très bien. Enfin, il n'y a pas de miracle, le crowdfunding ne fait que financer des opérations et des acteurs économiques.
Bertrand Desportes est associé au sein du cabinet de conseil Forvis Mazars.
Le crowdfunding a sans doute péché en termes de communication, c'est de rappeler en fait aux investisseurs qu'ils ne sont pas investis dans de l'immobilier, mais qu'en fait, ils sont détenteurs d'une créance vis-à-vis d'un promoteur immobilier et d'un marchand de biens. Ça fait une vraie différence. Et que deuxièmement, les garanties prises dans le cadre de ces opérations ne sont pas un dispositif à toute épreuve pour retrouver de l'argent, puisque une fois que vous rentrez en procédure collective, vous ne pouvez pas activer de garantie. Et une fois que vous êtes en procédure liquidative, bah, y a un ordonnancement des créanciers. Et le fait d'avoir des garanties de premier rang ou de second rang n'est pas une sûreté à toute épreuve pour récupérer 100% de la mise investie. Et le crowdfunding, c'est une finance alternative, donc qui doit arriver bien après la finance de précaution, donc les livrets réglementés type livret A, LDDS, l'assurance vie, le portefeuille boursier. Le crowdfunding doit rester marginal dans un portefeuille global.
Et les plateformes, comment elles peuvent faire pour se relancer ?
Pour sortir de là, je pense que les plateformes, elles ont à gérer un stock de projets qui sont en déshérence et elles doivent mettre les moyens financiers, humains pour sortir par le haut de cette crise-là, prendre le temps de déboucler chacune des opérations et c'est à ce prix-là qu'elles regagneront la confiance en fait des investisseurs particuliers qui veulent bien investir dans le crowdfunding. Sans doute également prévoir la possibilité d'avoir aussi d'autres secteurs sur lesquels elles peuvent intervenir, la transition énergétique, l'innovation, etc. et de ne pas rester uniquement agrippé à l'immobilier. On avait un problème d'hypertrophie de l'immobilier au sein du crowdfunding. Je pense qu'il doit revenir à sa juste place. 70% de la collecte globale du crowdfunding était portée par l'immobilier en 2022. On est revenu à moins de 50% en 2024 et les chiffres 2025 laissent entendre qu'il y aura encore moins d'immobilier dans le panorama général du crowd.
La mauvaise passe du financement participatif immobilier, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
L'invité dont n'arrête pas l'écho ce samedi, c'est le gouverneur de la Banque de France. Bonjour et bienvenue François Villeroy de Gallo.
Merci et bonjour Alexandra Ben Saïd.
À la Banque de France, vous surveillez le secteur immobilier, les montants accordés par les banques et les taux bien sûr. Est-ce qu'on peut espérer que les taux des crédits immo vont continuer à baisser ?
Alors les taux du crédit immobilier, ils se sont stabilisés depuis plusieurs mois. Nous allons d'ailleurs publier les chiffres du mois de novembre, mais je vous donne un petit avant-goût. En moyenne, je dis bien que c'est une moyenne, on est autour de 3,1% hein, pour un crédit à 20 ans. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que du coup, le crédit immobilier est reparti. Si on regarde les 11 premiers mois de 2025, c'est plus 35% de nouveaux crédits comparés à l'année précédente.
Donc ça se débloque.
Je crois vraiment que c'est le bon moment pour emprunter, parce que ce que nous observons effectivement depuis plusieurs mois, c'est que la baisse des taux du crédit immobilier, qui avait été sensible, s'est arrêtée.
Mmh. En parlant des taux, si vous voulez continuer à nous donner des avant-goûts, celui du livret A sera actualisé le 1er février. C'est important parce que l'an dernier, la rémunération du livret A elle est passée de 3% à 1,7%. Le calcul, la formule, elle dépend en partie de l'inflation. On sait que l'inflation, elle a ralenti. Certains économistes ont déjà calculé qu'au 1er février, le taux de rémunération du livret A pourrait baisser à 1,5%, même 1,3%. François Villeroy de Gallo, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Alors, je fais la proposition, et ensuite c'est le ministre des Finances, Roland Lescure, qui décide, mais ça se passe jeudi prochain, Alexandra Ben Saïd. Donc réponse jeudi, au vu du chiffre définitif d'inflation, ce que je peux déjà dire, c'est que le taux du livret A restera significativement supérieur à l'inflation, qui est très basse en France, hein, à 0,8%, le dernier chiffre connu. Et a fortiori, je vais parler d'un autre produit qui est encore plus intéressant pour l'épargne populaire, c'est le livret d'épargne populaire, qui est aujourd'hui rémunéré 1% au-dessus du livret A et compte déjà 12 millions de Français.
Là, nous parlons d'épargne, mais il y a cette idée que l'économie française a besoin que les Français cessent de trop épargner, alors leur permettre de débloquer exceptionnellement cette année leur épargne salariale. Par exemple, 2000 euros pour les salariés modestes. C'est la dernière proposition, celle du ministre du pouvoir d'achat, Serge Papin. Est-ce que vous pensez que c'est un levier puissant ?
Alors, vous avez raison sur le fait que l'épargne des Français est aujourd'hui très élevée. Et que c'est lié, et je crois que le principal facteur, c'est que c'est lié à l'incertitude. Alors, il y a une incertitude internationale, l'Ukraine, M. Trump, dont on va reparler, etc. Mm-hmm. Et ça, on voit cette montée du taux d'épargne partout, ou plutôt cette non-baisse du taux d'épargne. Mais il y a une incertitude nationale, hein, spécifiquement française, et elle est beaucoup liée au budget dont on va parler.
Ah bah oui,
nous estimons que cette incertitude politique nationale coûte au moins 0,2% de croissance à la France. Donc, je crois que la meilleure façon de ramener la confiance, c'est de réduire le déficit budgétaire.
Alors, vous nous emmenez sur l'incertitude politique française. Matignon a laissé fuiter hier une information, la possibilité d'une dissolution si le gouvernement est censuré, et donc de nouvelles législatives dès le mois de mars, le jour des municipales. Comment le gouverneur de la Banque de France voit cette agitation politique ?
Vous savez, il faut savoir reconnaître ses limites. Le gouverneur de la Banque de France est incompétent sur cette question de décision purement politique.
Mais sur l'impact.
Mais ce que je crois très important, c'est qu'il y ait un budget pour 2026, ça rassurera et les entrepreneurs et les Français, et que ce budget voit une nouvelle réduction du déficit. Je vais le dire très clairement, je vais le dire avec un peu de gravité, Alexandra Mensahid. Si la France ne réduit pas son déficit à maximum 5% du PIB en 2026, elle se met dans la zone rouge de danger.
Mais...
parce que la réduction du déficit, elle est à la fois indispensable, et je crois qu'elle est encore atteignable, mais elle est indispensable par rapport à la confiance des prêteurs internationaux, hein, ce qu'on appelle les marchés financiers. Ils sont calmes jusqu'à présent, mais il pourrait y avoir un certain nombre d'éléments qui se retournent, des procédures de sanctions européennes qui repartent, des nouvelles dégradations de la notation de la France, des investisseurs assez court terme, on parle des hedge funds, qui se retirent. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre ce risque de rentrer dans la zone rouge de danger.
Vous ne croyez pas au calme ?
Par ailleurs, c'est l'intérêt national. Quand je dis que c'est indispensable, la France ne risque pas la faillite. Mais la France risque un étouffement à plusieurs dimensions. Il y a un étouffement budgétaire, ça nous coûte de plus en plus cher les intérêts de la dette. Il y a un étouffement économique parce qu'on fait monter le taux des prêts aussi pour les entreprises et les crédits. Et puis si vous me permettez d'ajouter, il y a un étouffement générationnel d'une certaine façon. Là, nous sommes en train de choisir les seniors dont je fais partie au passage contre les jeunes. Parce qu'on fait plus de dépenses de retraite et plus de déficit. On transfère la facture à la génération suivante.
Donc vous
ça
êtes en
ne
train
peut
de...
pas, ça ne peut pas durer comme ça, je le dis avec un peu de gravité. Et alors, quand je regarde nos voisins européens, ils ont tous réussi à traiter. Il n'y a pas de raison que nous, Français, nous soyons les seuls à ne pas réussir à réduire nos déficits.
Vous y croyez
même...
encore
là,
vous
je vais revenir... Pardon, Alexandra Mensahid, j'ajoute une phrase. Par rapport à ce que vous disiez sur l'environnement politique, là aussi, quand je regarde chez nos voisins, ça suppose une condition, c'est qu'à un moment, on sorte des postures, des querelles, du spectacle, et on trouve des vrais compromis.
5% de déficit maximum, dites-vous, sinon on est en danger d'étouffement. Vous ne croyez pas donc à ce calme des marchés financiers ? Parce que c'est vrai que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Hein. 5%...
Non, quand je regarde, peut-être une remarque technique,
oui.
Quand je regarde le fonctionnement des marchés financiers, ça n'est jamais un fonctionnement linéaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un calme apparent pendant plusieurs mois, et puis une correction brutale. Je ne sais pas la prévoir, je ne suis pas en train de l'annoncer. Je relève juste dans l'environnement géopolitique extrêmement incertain dont vous parliez tout à l'heure, ces risques de retournement des marchés financiers sont accrus.
Alors 5% de déficit, alors que là on est bien au-dessus, c'est difficile à comprendre. Ça veut dire quoi ? Quand vous dites c'est possible, il faut aller chercher combien ? Et est-ce que vous pensez que c'est... On parle de 12 milliards, 15 milliards ? Où est-ce qu'on
Alors,
peut les
on
trouver ?
On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des chiffres, mais non, d'abord, il y a une remarque très simple, c'est qu'en 2025, nous avons réussi à réduire le déficit de 5,8, probablement à 5,4. Et donc, si on dit qu'en 2026, on passe de 5,4 à 5, vous voyez, c'est la même marche. Je crois que pour ça... C'est évidemment, ça sera les choix du gouvernement et du Parlement. Mais si je dois résumer, il faut la stabilisation des dépenses et une sagesse sur les impôts. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La stabilisation des dépenses, notamment côté État. Pourquoi ? Parce que nous avons les dépenses publiques les plus élevées, pas seulement d'Europe, mais du monde. Et puis, du côté des impôts, ce que j'appelle une certaine sagesse fiscale, c'est quoi ? C'est d'abord de reconnaître que nous n'avons plus d'argent pour baisser les impôts. Et qu'il y a certaines mesures de justice nécessaires. Je crois qu'il y a la justification aussi de certaines mesures ciblées et temporaires tant que le déficit n'est pas revenu sous 3%, je vais citer un exemple, la surtaxe d'impôts sur les sociétés sur les grandes entreprises.
Ça, c'est au cœur du débat, parce que Roland Lescure, il dit 6 milliards, les LR ne veulent pas, enfin, c'est vraiment le cœur du débat.
J'ai parlé de compromis, il faudra voir. Mais voilà, c'est pas des mesures que je cite avec enthousiasme, mais ça peut être des mesures nécessaires. Mais pour le reste, arrêtons de jouer avec l'impôt. La créativité fiscale, même si elle est un peu virtuelle dans des débats qui sont éphémères, mais la créativité fiscale, elle est très négative pour le moral des entrepreneurs et du coup pour la confiance économique.
François Villeroy-Gallo, parlons du chamboule-tout déclenché à l'échelle de la planète par le président américain. Est-ce que le plus grand risque, vous l'avez déjà un peu dit, d'instabilité financière, c'est Donald Trump ?
Ça fait partie des risques. Alors pas, je ne veux pas le personnaliser autour de M. Trump, mais l'agenda de dérégulation financière américaine est un agenda qui augmente les risques de crise financière. D'ailleurs, quand vous regardez dans l'histoire, les crises financières sont très souvent nées aux États-Unis, y compris la crise de 2008-2009, qui avait débouché sur des vrais progrès de règles du jeu, ce qu'on appelle Bâle 3 pour les banques. Il n'est pas question de revenir en arrière. Maintenant, je crois plus globalement face à la nouvelle administration américaine, qui c'est vrai est un grand facteur d'incertitude. Mais je crois qu'il faut que nous gardions notre calme et que nous gardions notre cap. Notre cap, ça veut dire quoi ? C'est qu'on a des valeurs, on a des atouts.
Mais on fait quoi ?
On va en parler. Alors, on fait quoi ? En gardant notre calme et notre cap, je crois qu'il faudrait essayer de faire deux choses. La première, c'est de maintenir un dialogue franc et exigeant à travers l'Atlantique. Et c'est important qu'on continue à se parler. Il se trouve que la France a pris, pas très connu, là, depuis le 1er janvier, la présidence de ce qu'on appelle le G7,
les
sept premières économies avancées. Et je peux vous dire, on a tenu une conférence à la Banque de France là cette semaine sur les paiements. Nous avons des choses d'intérêt commun. On n'est pas forcément d'accord, mais dont il faut continuer à parler. Éviter la crise financière, prévenir les risques cyber qui peuvent être accrus au passage par l'intelligence artificielle, et même continuer à parler d'événements climatiques. Tout ça, nous avons l'intention de le faire dans la présidence française du G7.
Mais pour nous développer.
Alors, ça, c'est, si je dis, l'agenda de dialogue. Après, il y a un autre agenda qui nous concerne, nous, qui ne dépend que de nous. Moi, je vais formuler un souhait ce matin, c'est la période des vœux. C'est qu'on soit peut-être un peu moins obsédé par M. Trump, mais qu'on garde une vertu américaine, c'est d'avoir davantage confiance en nous-mêmes. Nous, Européens, nous avons des atouts. Ben, il est temps de les mobiliser ensemble pour nous renforcer, muscler l'économie, augmenter la croissance.
Des exemples.
Alors, je vais vous citer deux exemples dans le domaine économique. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le rapport Draghi de 2024. Il dit par exemple une chose très simple. Les Européens ensemble ont énormément d'épargne. On parlait de l'abondance de l'épargne tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a à peu près 400 milliards de cette épargne chaque année qui va s'investir en dehors de l'Europe. Alors que nous avons des besoins très importants sur l'intelligence artificielle, sur l'énergie décarbonée, sur la défense. Ça s'appelle l'union d'épargne et d'investissement. Il y a un autre exemple, c'est l'euro. Et là, il y a un atout où on doit travailler sur la souveraineté numérique, on va peut-être en reparler.
Alors oui, l'euro, on va en parler. Juste, mais on en parle depuis tellement d'années, de cette union des marchés de l'épargne. Qu'est-ce qui vous laisse penser que là, on va avoir un déclencheur et que tout à coup...
C'est justement M. Trump. C'est que je crois qu'il y a eu un électrochoc sur l'Europe. Alors déjà, on ne l'a pas beaucoup noté. Il y a eu un certain nombre de propositions l'année dernière dans le sens de cette union d'épargne et d'investissement, notamment pour renforcer les fonds propres et le capital risque en Europe. Le capital risque, les actions, c'est la base de l'innovation. C'est le carburant de l'innovation. Il y a eu des propositions. Je crois qu'il faut aller plus vite, plus fort. Il faut se mettre une date. Je propose le 1er janvier 2028, pendant les années Trump. Maintenant, du côté de l'euro, ça c'est un formidable atout européen.
Et ça va être le mot de la fin.
Heureusement qu'on l'a fait, mais c'est très important qu'on adapte l'euro à l'ère numérique. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la souveraineté numérique est en bonne partie côté américain. C'est ça le projet d'euro numérique, et je dis qu'il sera un billet numérique plus. Je pense qu'on aura l'autorisation définitive cette année, et ça va voir le jour vite ensuite. Et puis ça s'articule avec des solutions de paiement privées, européenne, ce qui s'appelle Wero, pour citer un exemple, développé par les banques européennes.
Et ça, c'est pour
à la place des grands réseaux internationaux. Mon seul message,
Visa,
c'est que c'est un partenariat public-privé. Vous additionnez l'euro numérique public et les solutions de paiement privées comme Wero et vous construisez la souveraineté européenne sur les paiements pour le bien-être des Français et des Européens.
Les vœux, l'espoir, la conviction de François Villeroy de Gallo. Merci d'avoir accepté notre invitation.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Benoît vous a écrit de Rixheim en Alsace. Il est convoqué à une visite de la médecine du travail à l'initiative de son employeur, ce qui ne le rassure pas. Que peut-il dire à ce professionnel de santé sans risquer que sa direction en soit informée ?
Il existe, Benoît, plusieurs sortes de visites médicales. Il y a les convocations classiques qui doivent avoir lieu au maximum tous les 5 ans, les examens de suivi renforcés pour les salariés exposés à des risques particuliers ou encore les visites de reprise après un long arrêt, par exemple. Et il y a aussi des visites spontanées qui peuvent être faites à la demande de l'employeur ou du salarié. Si votre responsable, Benoît, estime que vous n'allez pas bien pour X raisons, il peut faire appel au médecin du travail. Mais attention, tout ce que vous pourrez dire à ce praticien est couvert par le secret médical. Il n'a pas de compte à rendre à l'employeur. Selon les cas de figure, le médecin du travail peut vous conseiller d'aller voir votre médecin traitant pour vous faire arrêter. S'il considère que votre état physique ou mental n'est plus compatible avec le poste occupé, il peut déclarer une inaptitude au poste de travail, mais les échanges avec la direction se bornent aux possibilités d'aménagement de poste ou de reclassement. En aucun cas, il ne porte sur vos données médicales.
Et que se passe-t-il, Sandrine, si le médecin du travail ou le médecin traitant est tout de même un peu trop bavard ?
La violation du secret médical est pénalement réprimée. Elle est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Et ça peut aussi coûter cher à l'employeur. Dans un arrêt du 10 décembre dernier, la Cour de cassation a prononcé la nullité du licenciement d'une vendeuse de robes de mariée. Dans cette affaire, les juges ont retenu deux choses. Un harcèlement moral, managérial, caractérisé à l'encontre de la salariée et la violation du secret médical. Dans la lettre de licenciement, la direction est allée jusqu'à écrire qu'elle avait contacté le médecin traitant. C'est par ce biais qu'elle a obtenu des informations sur la pathologie dont souffrait cet employé, sur les propos qui avaient été tenus au cours de la consultation et même sur le fait qu'un arrêt de travail antidaté avait été délivré. Or, encore une fois, le licenciement de la salariée ne peut pas reposer sur le contenu d'informations couvertes par le secret médical en violation du droit au respect de la vie privée, qui est une liberté fondamentale. Je vous rassure, Benoît, la grande majorité des professionnels de santé ne sont pas aussi imprudents. Ils savent que la relation de confiance qu'ils bâtissent avec leurs patients repose sur cette confidentialité. Sachez aussi que le médecin du travail est le seul praticien qui puisse entrer dans l'entreprise pour enquêter sur vos conditions de travail, d'où l'intérêt de lui confier, sans crainte de représailles, ce qui est susceptible d'altérer ou pas votre santé.
Et pour vous aussi, il est temps d'aller chez le médecin, Sandrine.
Oui, tout à fait.